Vous êtes sur RTL.
RTL Soirée, il est 18h53, RTL Monde.
Avec Béatrice Adjat ce soir. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir à vous.
Et elle a eu un mauvais perdant à Istanbul.
Oui, après 25 ans sous la domination du parti islamo-conservateur, Istanbul était passé à l'opposition en mars dernier. Mais le Haut Comité électoral turc vient d'invalider l'élection. Très vite, le ministre allemand des Affaires étrangères a dénoncé cette annulation incompréhensible, sans transparence aucune. Même réaction en France, où le Quai d'Orsay demande la présence d'observateurs internationaux pour suivre la prochaine élection prévue le 23 juin. Il faut dire que Recep Tayyip Erdogan ne supportait pas de perdre cette ville où il a commencé sa carrière politique. « Celui qui remporte Istanbul remporte la Turquie », disait-il. Et au pouvoir depuis 16 ans, Erdogan multipliait arrestations d'opposants, muselait la presse et ne supportait plus aucune opposition. L'idée de renoncer à Istanbul, à ses marchés publics qui profitent à ses amis entrepreneurs et à ses électeurs, a donc poussé le président Erdogan à multiplier pression et intervention de la police pour obtenir aujourd'hui cette annulation du scrutin. Le Moyen-Orient vient-il de perdre sa plus grande démocratie ? Titrait à juste titre le site Bloomberg ce matin.
Un choix difficile en Syrie, Béatrice.
Oui, parce qu'il reste encore un grand bastion djihadiste en Syrie, à Idlib, aux mains d'une milice pro-Al-Qaïda cette fois-ci, l'État islamique ayant été chassé. L'aviation russe, l'armée de Bachar el-Assad, essayent de l'en déloger, sans succès. 3 millions d'habitants sont pris en tenaille, ne survivent qu'avec l'aide alimentaire envoyée par l'ONU. Le problème, c'est que les djihadistes détournent l'aide à leur profit ou vers ceux qui leur font allégeance. La Russie avait dénoncé cette situation. Cette fois-ci, les ONG le confirment. Des donateurs annulent leur financement pour qu'ils ne bénéficient pas aux djihadistes. Du coup, des hôpitaux ont dû fermer et les civils en sont les victimes. Dérision ultime, cette milice s'est autoproclamée gouvernement du salut.
La Birmanie libère deux prix Pulitzer.
Deux journalistes de la prestigieuse agence Reuters viennent d'être libérés après 500 jours en prison en Birmanie. Ils avaient été accusés d'avoir mis la main sur des documents classifiés qui montraient l'implication de l'armée dans les massacres de Rohingyas. En 2017, cette minorité musulmane de Birmanie avait été victime de nombreux meurtres, chassée de ses villages. Depuis, l'armée birmane a reconnu certaines de ces exactions. Des militaires ont été condamnés. Mais en dépit des pressions internationales, ces deux journalistes étaient maintenus en prison. Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix, avait elle-même refusé de plaider en leur faveur. Alors ces deux journalistes ont reçu le prix Pulitzer pendant leur détention. Et le gouvernement birman s'est auto-félicité en affirmant qu'avec leur libération, le pays respectait les droits de l'homme, juste avec 500 jours de retard.
Merci Béatrice Adjadj.
RTL Monde.
Marc-Olivier Fogiel.
Le grand format de RTL Monde, l'Afrique du Sud, aux urnes demain pour les élections législatives. La victoire est promise une nouvelle fois à l'ANC, le parti du président Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Mais la corruption et une société de plus en plus inégalitaire va lui coûter de nombreuses voix. Le reportage à Alexandra, c'est un Tom Cheat, de Johannesburg, et signé Valérie Hirsch.
Pendant plusieurs jours, des manifestants barricadaient les rues d'Alexandra, un township surpeuplé et insalubre de 350 000 habitants au nord de Johannesburg. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu sur place. Ramaphosa est à la tête du Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994.
La municipalité doit lancer un programme pour nettoyer Alexandra. Nous ne pouvons pas vivre au milieu des rats et des immondices.
La municipalité de Johannesburg a été conquise en 2016 par l'opposition. Mis en cause pour son inaction, le maire Herman Mashaba a aussitôt contre-attaqué. La corruption au sein du parti au pouvoir est le thème majeur de cette campagne. Ramaphosa promet d'y mettre fin. Niezi Maingele, un étudiant d'Alexandra, lui fait confiance.
Je pense que Ramaphosa peut restaurer la dignité de l'ANC. Il peut mettre fin à la corruption. Je ne pense pas qu'il va piller les ressources de l'État parce qu'il est déjà riche.
De nombreux Sud-Africains sont toutefois sceptiques, d'autant plus que l'ANC inclut des leaders corrompus sur ses listes. Lydia Seboda vend des pâtisseries dans les rues d'Alexandra.
Je veux un changement parce qu'ils ont volé l'argent, il n'y a pas de travail et l'économie souffre.
Les électeurs plus âgés continueront à voter pour l'ANC qui les a libérés de l'apartheid et qui a mis en place des allocations pour les pauvres. Une dépendance dénoncée par Julius Malema, le président du petit parti d'opposition, les combattants pour la liberté économique, les IFF, lui aussi est venu faire un meeting à Alexandra.
Aucune allocation ne vous donnera des ailes. L'ANC ne veut pas que vous soyez éduqués. Ils ne veulent pas de gens qui puissent réfléchir.
Les IFF pourraient passer de 6 à 10% des voix. Par contre, à Sandton, le quartier opulent d'affaires à côté d'Alexandra, beaucoup s'inquiètent d'une percée de ce parti qui veut nationaliser les terres, les banques et les mines.